certains veulent déjà le faire taire.
Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité.
Merci d'être chaque jour un peu plus nombreux à animer le Facebook de l'émission. Oui, je vous en parle. Toutefois, j'aimerais, au vu de certains propos que j'ai pu y lire ces derniers jours, vous rappeler que je ne tolérerai pas les insultes à caractère raciste, les propos injurieux, toute attaque blasphématoire envers les religions, quelles qu'elles soient, et il en sera de même pour les propos politiques. Oui, dans le cas contraire, je bloquerai l'accès à cet espace de discussion et de confrontation, parfois, à tous ceux qui dérogeront à cet état d'esprit. Profitez-en, alimentez, donnez-nous toute votre théorie, mais dans le respect.
Ceux qui l'aiment, l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur, l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob est sur Ado.
Dans quel monde on vit? Voilà bien une question que beaucoup se posent quotidiennement. Il faut dire que lorsque l'on se penche d'un peu plus près sur le sujet, on s'aperçoit vite qu'il est de plus en plus difficile de vivre correctement. On voit de plus en plus de gens faire la manche alors que d'autres s'enrichissent. Alors, s'il est facile d'avoir de la compassion pour les premiers, il faut comprendre pourquoi les seconds font de plus en plus de monnaie. Que l'on soit de gauche ou de droite, voire du centre, il faut juste se poser un instant pour comprendre que l'on marche sur la tête. Quelle société allons-nous laisser à nos enfants? Une société qui verra des gens rouler en Ferrari, donner de l'argent à d'autres gens qui tendront la main au feu rouge? Attention, ne vous méprenez pas, j'adorerais rouler en Ferrari si justement il n'y avait pas de plus en plus de gens au feu rouge pour quémander quelques pièces. Okay. En toute honnêteté, ce n'est pas faire de la politique, bien loin de moi cette idée, que de dire qu'il faut que les choses changent. Comment? Je ne sais pas, je ne fais que de la radio. Certains en revanche ont décidé de s'engager, c'est le cas de mon invité Étienne Chouard. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes prof à Marseille et blogueur. Vous vous occupez du bien commun, du mieux que vous pouvez avec le temps dont vous disposez. Vous avez, vous, une idée bien précise de notre société et j'aimerais que l'on aborde. Vous vous considérez comme un citoyen actif. Ça veut dire quoi, un citoyen actif, Étienne?
Je dirais que c'est quelqu'un qui s'occupe pas uniquement de ses affaires et qui... Bah, c'est un peu de son temps à s'occuper du bien commun, c'est-à-dire des affaires communes. La cité, pour être pacifiée, a besoin que certaines personnes, pas forcément toute leur vie et pas forcément à 100%, mais certaines personnes se dévouent un peu pour ce bien commun, pour que ça tourne.
Est-ce que vous pensez que justement la société aujourd'hui engendre des gens qui sont de plus en plus égoïstes?
Oui. Oui. Alors, les raisons en sont multiples, mais on peut certainement dire ça, le confort matériel.
Parce que moi, j'ai l'impression, Étienne, qu'en fait, on est plus égoïste quand on est dans le besoin. Que c'est toujours pareil quand j'entends des gens.
C'est pas tout à fait sûr, ça.
Mais écoutez, moi, j'ai la sensation. Vrai, oui. On va pas en débattre parce que moi, je débat pas. Je vous exposez, les gens disposent, mais je me dis qu'il faut avoir une certaine aisance pour pas être égoïste. Vous voyez, parce que quand on est dans le besoin, j'ai quand même la sensation que les gens se ressentent sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils souffrent et ils ont besoin de penser à eux en premier. Alors, c'est très difficile. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. La société, peut-être, c'est elle qui engendre cela. Mais je me dis, dans votre idée, vous, c'est de s'ouvrir. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver un jour déjà?
Mais vous savez, moi je trouve que on observe beaucoup plus de solidarité chez les pauvres, chez les ouvriers, les gens simples qui n'ont pas grand-chose à donner mais qui partagent volontiers, que chez les riches que je trouve effroyablement égoïstes. Je comprends ce que vous dites, hein, parce que c'est vrai, il y a un proverbe, je crois que c'est portugais qui dit, ou marocain, qui dit l'homme pauvre a des paroles amères. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression que le racisme, par exemple, est un réflexe de survie pour quelqu'un qui a peur, qui cherche un bouc émissaire.
Ah ben de toute façon, oui, pour moi le racisme c'est de la peur, hein, ça c'est sûr. Donc,
voilà, ouais. Et quand la situation économique va bien, qu'il y a de la place pour tout le monde, à mon avis, c'est la meilleure façon de diminuer le racisme en le prenant par la cause. Ah. Donc je suis d'accord, mais c'est pas si simple que les pauvres deviennent égoïstes. Je vois même le contraire très souvent.
C'est pas ce que j'ai voulu dire, Étienne. Hein. C'est que j'avais l'impression que c'est difficile en fait d'être très généreux quand déjà on n'a pas beaucoup pour soi. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, c'est difficile, mais c'est pourtant ce qu'on observe. C'est incroyable ce que les pauvres gens, en fait, donnent.
Ouais. Ah bah tant mieux, en tout cas. Vous voyez quoi, je trouve que c'est une bien bonne chose. Alors, on va commencer par le commencement. Votre prise de conscience intervient quand? Je crois que c'est en 2006, c'est ça?
2005, pendant la campagne du référendum sur l'anticonstitution européenne. C'est un texte qui se présentait comme une constitution qui allait jouer le rôle d'une anticonstitution, c'est-à-dire d'une prison politique au lieu d'être une protection, un peu comme notre anticonstitution française. En fait, aucun peuple du monde pour l'instant n'a de constitution. Nous n'avons pas de constitution et c'est notre problème, je crois.
Pourtant elles sont données, les constitutions. Tout le monde dit qu'on a une constitution. Tous les peuples disent qu'ils ont des constitutions.
Oui, mais alors justement, quand on y réfléchit, on s'aperçoit que il suffit pas de mettre l'étiquette confiture sur une fiole de poison pour en faire de la confiture, ça reste du poison. Et il suffit pas d'appeler constitution un texte prison pour en faire un texte de protection. En fait, ce qui est important, c'est qui écrit la Constitution. Et il faut savoir à quoi ça sert pour comprendre que les personnes qui vont l'écrire sont très importantes. Une Constitution, c'est un texte...
On est bien d'accord. Mais la plupart du temps, Étienne, ce sont les...
Tout le monde, en fait, devrait savoir à quoi ça sert. Pourquoi ça a été créé. C'est un texte supérieur qui devrait être au-dessus des pouvoirs, au-dessus du Parlement.
Oui, mais sauf que c'est le pouvoir qui l'écrit.
Eh bien voilà. Et c'est que parce que ce texte devrait être au-dessus des pouvoirs pour les inquiéter, de façon à nous protéger, nous qui sommes en dessous des pouvoirs. Et l'idée de la Constitution, c'est une idée géniale qui permettrait de limiter les pouvoirs pour les empêcher d'abuser. Or, Montesquieu disait bien que tout pouvoir doit être limité, il faut que par la constitution des choses, le pouvoir arrête le pouvoir pour l'empêcher d'abuser. Et donc il disait bien que c'était important d'avoir une constitution, donc tout le monde avait compris ça. Mais en fait, c'est très rare de trouver dans la littérature, il y a très peu de gens qui le défendent, qu'il faut faire attention pour que ça marche à qui écrit la constitution. Et si on ne fait pas attention au conflit d'intérêts, c'est-à-dire à une malhonnêteté dans cette occurrence précise, au moment d'écrire la Constitution, les parlementaires sont, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes en général, mais ils ne peuvent pas être honnêtes au moment d'écrire la Constitution parce que c'est un texte qui les concerne trop personnellement.
C'est-à-dire qu'en fait, ils sont trop partie prenante, c'est ça?
Ah oui, mais c'est exactement comme un juge à qui on donnerait à juger sa fille, son fils, vous voyez.
Qu'est-ce que vous prenez? C'est-à-dire que vous voulez que ce soit le peuple qui écrit une...
Exactement.
Oui, mais alors, vous imaginez le bordel, Étienne? Comment arriver à se mettre d'accord? On est 60 millions de Français, 60 ou 65 67 millions, 67 millions. Vous imaginez si on décide de donner au peuple, on a déjà du mal à regardez les gouvernements de chaque côté, là, on a parlé du mariage homosexuel, il y en a qui veulent le référendum, il y en a qui veulent pas, il y a toujours...
C'est gros bordel, quoi.
Moi, je dis, mais tiens, pourquoi pas donner ça au peuple? Voilà. Et tout le monde gueule, alors il y en a qui gueulent pas. Vous imaginez, on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est le bordel.
Ouais, alors peut-être que vous avez raison, mais peut-être pas, parce que nous sommes très variés, nous avons plein de besoins différents, spécifiques, mais par contre, nous avons tous le même besoin de contrôle des pouvoirs pour qu'ils n'abusent pas.
Ah oui.
Et quand on lit les penseurs politiques depuis Aristote, on s'aperçoit que tous ceux qui se penchent sur le problème tombent sur, je dirais, une dizaine de règles qui sont toujours les mêmes. Il faut séparer les pouvoirs, il faut qu'ils rendent des comptes, il faut qu'ils demandent à court et non au douflap, parce qu'on sait que le pouvoir corrompt et qu'il ne faut pas laisser aux gens le temps de se corrompre. Il faut l'initiative populaire, il faut que le peuple puisse reprendre la main sur ses représentants à tout moment. Vous avez comme ça, il n'y en a même pas 10 des règles. Et quand vous mettez quelques personnes dans une pièce à réfléchir, il n'y a même pas besoin de leur dire « faites attention à la séparation des pouvoirs, initiative populaire, à la reddition des comptes, les mandats courts non renouvelables », ils tomberont dessus naturellement parce que c'est logique.
Ouais.
Et donc, c'est pas si varié que ça. Vous n'allez pas avoir des milliers ou des dizaines de milliers de constitutions différentes. En fait, si nous n'arrivons pas, partout sur Terre, à avoir de bonnes constitutions, ce n'est pas parce que c'est compliqué, c'est parce que ceux qui écrivent aujourd'hui les constitutions sont toujours. Et c'est pas leur faute, c'est notre faute à nous qui les laissons faire. Toujours, ce sont des professionnels de la politique, donc des hommes de parti, des parlementaires, des ministres, des juges, qui peuvent être des gens très bien, je dis pas qu'ils sont pourris, je dis pas ça, je dis... Dans cette occurrence-là, ils ne peuvent pas écrire la Constitution dont nous avons besoin. Et de la même façon qu'un juge, le juge dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un bon juge. Je ne dis pas qu'il est pourri, évidemment. C'est un bon juge. Mais si son fils ou sa fille arrive au tribunal pour être jugé ou pour, en tant que victime ou en tant qu'accusé, le monde entier sait que ce juge-là ne peut pas rendre la justice dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le récuse, c'est-à-dire que pour cette situation-là, on dit « tu ne peux pas juger ». Ça ne veut pas dire qu'il est malhonnête. D'ailleurs, c'est lui-même qui va se mettre de côté. Il ne va même pas attendre qu'on le mette de côté. Lui-même, ça va être son honneur de dire « mais attendez, là, je ne peux pas juger ». Et il va se mettre... Mais nos politiciens n'ont pas cet honneur, n'ont pas cette hauteur de vue. Ils devraient, normalement, au moment d'écrire la Constitution, ces gens-là devraient dire « non, mais attends, je ne peux pas écrire, moi, la Constitution qui va me contraindre ». Donc, ça va être quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre, mais pas un professionnel. Ils devraient dire ça.
Et oui, mais tout le monde va se retrouver, Étienne, dans la même situation.
Non, parce que y a vous et moi, moi je suis candidat à rien, moi je suis pas du tout candidat.
Moi c'est pareil.
Mais même moi je devrais pas y être, parce que maintenant que je me suis mis à faire de la politique, je devrais pas y être. Il faut que ce soit des gens qui sont en dehors de la politique.
Ah ouais. Et vous pensez franchement, Étienne, et moi je trouve l'idée géniale, moi je trouve ça fantastique, donner la démocratie, il faut la rendre au peuple, en fait. C'est ce que vous.
Nous écrivions nous-mêmes notre contrat social.
Voilà. Alors je trouve ça génial, mais est-ce que l'histoire n'a pas démontrer qu'à chaque fois qu'on donne le pouvoir au peuple, eh bien, encore une fois, il reproduit la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va dire « moi, je suis le chef, et moi, toi, t'es mon sous-chef ». Et voyez ce que je veux dire ? Et il va y avoir encore des guerres intestines ou des luttes de pouvoir. Vous n'avez pas peur de ça ?
J'ai peur de ça, mais ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Pendant 200 ans, c'est très long, c'est le même temps qui nous sépare de 1789 à aujourd'hui.
Hein, c'est vrai.
Pendant 200 ans, il y a 2500 ans, donc à l'époque d'Athènes antique, pendant 200 ans, ils ont tiré au sort tous les jours. Ils se défiaient d'eux-mêmes et de leur chef, au point de tirer au sort tous les jours leurs représentants, de façon à ce que ces représentants restent leurs serviteurs et ne puissent jamais devenir leur maître. Et ça a très bien marché. Ils s'en sont... Simplement, c'était très pragmatique, c'était pas du tout idéaliste. Ils savaient qu'ils étaient, chacun d'entre eux, imparfaits, donc dangereux, potentiellement, et donc ils se faisaient pas ils ne se faisaient pas confiance.
Oui, mais du coup, on est dans la méfiance perpétuelle.
Oui, mais par rapport au pouvoir, c'est absolument ça qui est décisif. Aujourd'hui, nos élus nous ont conduits à, nous ont formés à, nous ont habitués à, nous ont imposé de leur faire confiance. Mmh. Et c'est une folie. Il ne faut pas faire confiance aux hommes qui ont pouvoir, mais je le dirais...
Mais ça veut dire que quel que soit...
j'ai un pouvoir, je dirais, j'ai besoin, si vous me donnez le pouvoir, j'ai absolument besoin, pour pas devenir fou, d'avoir des contre-pouvoirs. Le pouvoir sans la méfiance, sans la surveillance, va finir en tyrannie. Ça va mal se finir, quoi. Et c'est ce qu'on voit, là.
Et d'ailleurs, bien sûr, on est au-delà des clivages politiques, que ce soit de droite ou de gauche. Pour vous, c'est la même chose, en fait.
Complètement.
D'accord.
Alors, moi, je suis... Enfin, pas complètement. Parce que l'idée démocratique, elle est de gauche au sens où elle cherche le bonheur du plus grand nombre. Quelqu'un de droite, il aura plutôt tendance à dire mort aux faibles, quoi. Hein, je veux dire mort aux faibles.
Oui, mais enfin, on voit quand même. Alors, moi, je veux juste rappeler que dans l'histoire, les grandes avancées sociales ont souvent été faites quand même, Étienne, sous des gouvernements de droite.
Non, je ne crois pas, parce qu'on n'a que des gouvernements de droite. C'est-à-dire que les gouvernements prétendument de gauche sont des gouvernements de droite.
Alors, je voulais vous l'entendre dire. Je voulais vous l'entendre dire, Étienne. Voilà.
Les socialistes sont beaucoup plus à droite que les gouvernements de droite.
On est d'accord.
C'est de la droite dure. Et c'est comme ça depuis la Révolution française.
D'accord.
C'est-à-dire que quelqu'un comme Thiers, vous savez, Thiers, c'est ce royaliste.
Ouais.
Enfin, c'était pas royaliste, il était thiériste, lui. Mais en fait, parce qu'il voulait être le chef de l'État. Mais ce gars-là a massacré les gens de la commune. C'était un industriel, c'était quelqu'un qui était très riche, qui faisait la fortune des plus riches, qui a assuré la fortune des plus riches, qui a massacré les communards. Et ce gars-là, il a créé un parti avec les royalistes qui s'appelait, écoutez bien, centre-gauche.
les affairistes et les banquiers pendant la Troisième République ont toujours pris des noms de partis fallacieux. Centre-gauche, démocrate, radical. Tous ces gens-là étaient des affairistes et des banquiers qui avaient plus que peur du peuple. Ils avaient un mépris du peuple. Ils exploitaient le peuple. Ils étaient, c'est un racisme effrayant, en fait. Et pourtant, ils s'appelaient centre-gauche. Et ben, notre PS, c'est exactement ça. Ces gens-là habitent Place des Vosges. Bon, il y a quelques personnes que j'aime bien, hein, au PS, mais qui sont complètement marginaux. Des gens comme Gérard Filoche, des inspecteurs du travail hyper dévoués. Mais il s'est... C'est infinitésimal, c'est pas le pouvoir du tout.
On va être obligé de marquer une petite pause parce que la pub arrive et ça, que je le disais hein, tout à l'heure en préambule quand j'ai ouvert l'émission, économiquement, ça existe, voilà. Et on est là. Voilà. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans un instant. Étienne Chouard est avec nous pour parler de sa vision qu'il a de nos gouvernements, de la démocratie. Si vous voulez réagir, et ça réagit énormément, eh bien, Bob vous dit toute la vérité, c'est le Facebook.
Prémonition, monde parallèle, théorie du complot.
Tous les soirs sur Ado.
Bob vous dit toute la vérité.
Vous pensez depuis toujours que le gouvernement nous ment, que nous sommes totalement manipulés, que tous nos faits et gestes sont observés. Alors bienvenue dans toute la vérité. Bon, et Bob, je vous dis cette vérité, mais surtout sur la réincarnation, sur les ovnis, sur Lucifer, les francs-maçons, les complots d'État, les sorciers, les sociétés secrètes. Et on va y revenir dans une poignée de secondes avec Étienne Chouard. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que très prochainement, début février, eh bien, je vais vous proposer une émission incroyable avec Patrice Pouyat et Jacques Grimaud qui sont respectivement réalisateurs et auteurs d'un documentaire incroyable qui s'appelle La Révélation des Pyramides. Ils viendront ici pour la troisième fois pour et cette fois-ci faire avancer le schmilblick et nous dire ce qu'il va y avoir dans les opus suivants. Plein de questions bien sûr que j'aurai à leur poser et vous aurez surtout l'occasion de chatter avec eux sur le site adofm.fr une heure et demie avant l'émission et vous pourrez leur dire tout ce que vous voulez, toutes vos théories, vous pourrez y aller malin avec allez, ce sera ouvert, c'est open bar hein. Donc ce sera l'occasion début février de revenir sur la révélation des pyramides.
Malgré toutes les mises en garde, malgré les avertissements,
tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité.
Il est prof à Marseille, il est blogueur, Étienne Chouard. Étienne, je vous ai pas demandé, vous êtes prof de quoi ?
Je suis prof d'éco-gestion.
Ah d'accord, putain, ça a dû discuter avec les élèves, non ?
Pas tellement en fait, je fais attention à ça parce que avec mes élèves, je suis en situation d'influence. Je suis prof et je préfère pas parler de politique.
C'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais adoré avoir un prof, moi, avec qui je pouvais échanger. Donc voilà, parce que généralement. Bon, bref, quoi qu'il en soit, beaucoup de questions sur la page Facebook. Bob vous dit toute la vérité et on va commencer à vous les poser.
Oui, il y a Martin qui voudrait savoir, vous parliez tout à l'heure de la démocratie athénienne et pourquoi elle a disparu ?
Ils ont perdu une guerre. En fait, il y avait, c'était la seule cité qui était démocratique, les autres étaient oligarchiques. Et ils se faisaient la guerre. Et puis il y a une coalition qui a été plus forte qu'eux. Et en fait, pendant 200 ans, les philosophes, Platon et toute la bande des philosophes, presque tous les philosophes étaient hostiles à la démocratie, comme s'ils étaient nés pour contester la démocratie. Et ils se sont bien rendu compte que c'était le tirage au sort qui était au centre, qui rendait possible sa survie, qui était son principal pilier. Il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort, en fait, et les philosophes l'avaient bien compris.
C'est sûr.
Et quand ils ont perdu cette guerre, les voleurs de pouvoir, en tout cas c'est comme ça que je les appelle, c'est plus clair, on fait bien attention à ce que plus jamais le tirage au sort ne soit mis en application. Et donc plus jamais, en fait, on a eu de vraie démocratie depuis.
D'accord.
Puisque l'élection est aristocratique, hein. Vous savez que quand vous élisez quelqu'un, vous choisissez le meilleur. Le meilleur se dit Aristos en grec. Et l'élection est en fait par construction, par définition, aristocratique et pas du tout démocratique. L'élection est anti-démocratique, alors qu'on nous apprend le contraire à l'école. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'imaginer ce que c'est qu'une démocratie tant qu'on n'a pas remis les mots à l'endroit.
Mais alors, vous savez, Étienne, quand je vous entends parler, il y a un formidable... Moi, il y a un pays que j'adore, parce que mes parents y sont nés, c'est la Tunisie. Et on voit bien, il y a eu le printemps arabe, ils ont eu l'occasion, avec le printemps arabe, de tout remettre à plat.
Oui, mais ils ont raté le coche, et je dis que nous raterions
nous le raterions de la même façon, parce qu'ils n'avaient pas réfléchi justement à ce que je dis, c'est-à-dire qui écrit la Constitution. Mmh. Et les Tunisiens, après avoir fait l'effort incroyable de virer leur tyran, sont tombés dans le même panneau que celui dans lequel tous les humains tombent par toujours et partout en ce moment, enfin, parce qu'on n'a encore pas pris conscience, mais ils ont élu leur assemblée constituante parmi les professionnels de la politique, puis ensuite sont rentrés chez eux, au lieu de surveiller, de regarder ce qui se passe. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est effrayant. Moi, les copains tunisiens me racontent, c'est effrayant. Les constituants, d'abord, travaillent à huis clos, donc se cachent, ne disent pas ce qui se passe aux Tunisiens. Et puis ils sont en train d'écrire leur puissance, comme partout, ils sont en train d'écrire leur puissance, de programmer l'impuissance populaire, mais pour les mêmes raisons. Je pense que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, il faut absolument que l'Assemblée constituante soit tirée au sort.
Alors, est-ce que...
Si les Tunisiens l'ont pas fait, ils vont avoir la même punition que nous. Mais bon...
Parce que c'est un peu dommage de se battre pour avoir justement de la liberté, puis de retomber dans le piège, quoi. Donc voilà.
Alors... C'est-à-dire quand... Et si vous donnez la possibilité aux professionnels de la politique d'écrire eux-mêmes les limites du pouvoir qu'ils vont avoir, faut pas s'étonner qu'ils écrivent de fausses limites. Enfin, c'est complètement humain. Un enfant comprend que dans cette situation-là, l'homme au pouvoir, il va pas écrire les limites qu'il faut.
Oui, mais vous auriez pas peur, Étienne, que si on donnait la possibilité au peuple d'écrire la Constitution, on retombe dans le même panneau. C'est-à-dire que le mec va pas écrire un truc qui va lui empêcher d'avoir des libertés ou des règles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est assez compliqué.
Oui, mais avec cette différence que si c'est quelqu'un du peuple qui écrit la Constitution, il va écrire un texte qui est conforme à l'intérêt de 999 pour 1000.
D'accord. Et pourquoi, vous savez, il y a un truc qui est incroyable, c'est que quand on a préparé l'émission, je suis allé me renseigner, on m'a dit Étienne Chouard, super, ça a réagi vachement, etc. Et puis tout le monde m'a dit, putain, vous avez des couilles, vous le prenez en direct. Pourquoi, vous avez l'habitude d'être censuré, Étienne?
Je sais pas, enfin, ce qu'il y a, c'est qu'en fait
Parce que moi je vois rien de censurable dans ce que vous dites depuis le début là.
À toute façon, il y a des années que je passe presque plus sur les radios et les journaux nationaux, alors qu'au début c'était très fréquent. Mais en fait, depuis que je dis que je trouve Thierry Messant intéressant, ça c'est comme, il y a comme un marqueur, ils doivent avoir un mot entre eux c'est comme un code, quoi. Si ceux qui défendent Messant sont des diables et il faut les museler en leur donnant jamais la parole. Je pense que c'est ça qui...
Mais la démocratie, c'est aussi de pouvoir penser ce que l'on veut. Alors ça, ce sera encore... Ça, encore une fois, ça rejoint à ce que vous dites. Alors moi, je le soutiens pas de toute façon, forcément, de toute façon, mais en tout cas, ici, vous avez le droit d'exposer. Encore une fois, je le dis, l'auditeur dispose. Quoi qu'il en soit, nous, on est heureux de vous avoir avec nous ce soir. Et ça fait beaucoup réagir, beaucoup de questions. Vous mettriez quoi, vous, dans la Constitution, Étienne?
Je mettrais très prioritairement le référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire que quelle que soit l'organisation choisie par la constituante, qu'elle choisisse une chambre élue ou une chambre élue et une chambre tirée au sort, des chambres de contrôle tirées au sort, la révocabilité des représentants à tout moment, les mandats courts, non renouvelables, très prioritairement, devant tout ça, je mettrais le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire la possibilité, à tout moment, à tout propos, pour une poignée de citoyens, voire même pour un citoyen seul, de déclencher une question posée au peuple. Et la réponse donnée par le peuple prévalant sur toutes les institutions. Il me semble que ce droit d'initiative serait, d'initiative à tout moment pour le peuple, pour reprendre le contrôle, serait le plus important. Alors vous savez, il y a 4 domaines qu'on devrait protéger de cette manière. Il y a le référendum d'initiative populaire législative pour écrire nous-mêmes une loi, pour dire nous on veut cette loi, même si vous parlementaires vous la voulez pas. Il y a le référendum d'initiative populaire abrogatoire qui permet d'abroger, ça veut dire de supprimer une loi dont on ne veut pas alors que les parlementaires veulent nous l'imposer, comme par exemple sur les retraites. Le référendum révocatoire, référendum d'initiative populaire, révocatoire pour virer n'importe quel acteur politique de notre propre initiative quand on n'en veut plus.
Ouais, mais...
Et le quatrième référendum d'initiative populaire, c'est un référendum constituant qui nous permettrait de notre propre initiative, quand on s'aperçoit qu'on a oublié un truc ou qu'on a fait quelque chose de mal dans notre constitution, de le changer de notre propre initiative.
Mais j'ai l'impression, Étienne, que là, il n'y aura plus personne. Hein, c'est-à-dire qu'on va virer tout le monde. Hein. C'est ça.
Non. Pourquoi ? Il y a plein de gens bien. Pas du tout. Il y a plein de gens bien qui resteraient longtemps. Mais de toute façon, on n'a pas besoin.
Est-ce qu'il y a trop justement ? Est-ce qu'il y a trop de monde justement ? Est-ce qu'il y a trop de politique pour vous en France ?
Non, c'est pas ça notre problème. C'est pas une question de quantité. Le problème, c'est qu'on a un régime dans lequel faire de la politique est un fromage qui permet de gagner beaucoup d'argent et d'autres avantages de toutes sortes et sans aucun contrôle réel par rapport à l'intérêt général dans un contexte d'impuissance politique des peuples qui ne peuvent rien contre ces acteurs qui sont... Non, moi je les appelle des voleurs de pouvoir et je pèse mes mots. Voilà. Mais c'est notre faute très largement. C'est-à-dire que si c'était leur faute et que je devais donc attendre leur vertu pour que les choses changent, ce serait désespérant parce que ça n'arrivera jamais. Mais par contre, comme je trouve que la cause est en nous, que c'est parce que nous avons renoncé à écrire la Constitution, c'est pour ça que nous avons des hommes politiques incontrôlés. Je trouve que ça donne de l'espoir. On a juste un problème d'éducation populaire. Il faut qu'on se forme entre nous, qu'on se passe le mot entre nous. C'est à nous d'écrire la Constitution. Si on est des millions, ça arrivera et sans violence. Parce qu'on est nombreux. Si on n'est pas nombreux, ça se fera que dans la violence. Il faut qu'on en parle d'abord.
Ouais. Est-ce qu'il y a un pays, Étienne, qui a grâce à vos yeux ? Est-ce qu'il y a un pays qui correspond à ce que votre idéal de vie, en fait ?
Oh.
L'Islande, on parle beaucoup de l'Islande, du système islandais. Est-ce que c'est un système qui vous conviendrait ?
Alors, j'ai lu précisément ce matin un billet remarquable d'un Islandais, précisément, qui démonte complètement le mythe sur l'Islande que nous propageons, parce que c'est vrai que ce qu'on entend dire sur l'Islande et c'est vachement sexy. On se dit putain, c'est exactement ça qu'il nous faut, quoi. Ils ont foutu dehors leur banquier, ils ont foutu en prison, ils ont viré leur gouvernement, ils ont refusé de payer la dette, la croissance repart. Et puis il y a un gars ce matin qui explique que, mais attendez, mais vous y êtes pas du tout, c'est pas du tout ça qui se passe chez nous, et qui explique en long, en large, en travers qu'en fait le gouvernement est nul, et le gouvernement islandais. Et qu'il cède surtout, et qu'en fait, s'il n'a pas remboursé, c'est parce qu'il ne pouvait pas, mais il essayait de le faire en réempruntant, et puis personne ne voulait lui prêter, etc. C'est méfiance sur l'espèce d'icône islandaise qu'on voudrait.
Oui, ne nous laissons pas bercer d'illusions quand même, c'est ce que vous êtes en train de me dire, quoi. Donc il faut y a de la poudre aux yeux. Alors on va marquer une petite pause musicale, Étienne.
Pendant la pause, je vais vous chercher le lien, voir si je trouve.
Allez-y, et puis on pourra peut-être même le mettre sur la page Facebook. Bob vous dit toute la vérité. Étienne Chouard est notre invité sur Radio, que vous écoutez à Paris sur 97.8, à Toulouse 93.1. Je rappelle que vous pouvez également écouter n'importe où en France via les players qui sont à votre disposition, soit sur le Facebook de l'émission, soit sur le site de la maison.
Ouais, et là on va écouter Jackpot 2000 avec 113, un bon petit son à l'ancienne avec Jimmy Sissoko sur Ado. Vous écoutez Bob vous dit toute la vérité.
Toute la vérité avec Bob, 21h minuit sur Ado.
Vous arrivez peut-être pour la première fois. Si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Et oui, cette émission est addictive. Je le dis souvent, regardez, je viens tous les soirs. Étienne Chouard est avec nous, professeur à Marseille et blogueur. On parle de l'économie, on parle de la démocratie, on parle de nous, en fait, tout simplement, de notre vie. Étienne, je voulais vous poser une question. Trois minutes pour répondre avant la pause. Est-ce que vous pensez que le peuple, un jour, va se soulever comme il s'est déjà soulevé ?
J'en sais rien. J'en sais rien. Et à mon avis, c'est pas le plus important. Parce que si on se soulevait aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas prêt. Et si vous demandiez dans la rue
comment est-ce que on réorganise les pouvoirs pour éviter que ça recommence. Je pense que tout le monde dirait, ou presque dirait, il faut élire une assemblée constituante.
Mais oui, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire que le peuple n'est pas capable.
Non, ça veut... Non, c'est pas définitif du tout. C'est juste une question de conscience. Moi, je vois bien, je fais des conférences tout le temps, et je vois bien que les gens se transforment à toute vitesse. Les gens comprennent ce que je raconte, les gens normaux comprennent très vite. Si vous voulez, moi, je me sens éclairé par ce que je lis. Je trouve que c'est remarquable. Je trouve des idées remarquables dans l'histoire des hommes. Et l'effet que je sens chez moi, je le trouve chez les autres aussi. C'est-à-dire qu'on est, fabriqué de la même manière, quoi. Et en fait, cette façon de reprendre, de remettre les mots importants à l'endroit. Une constitution, ça sert à nous protéger. Si le texte nous emprisonne, ça n'est pas une constitution. Une démocratie, c'est un peuple qui gouverne. Si le peuple ne gouverne pas, ça n'est pas une démocratie. Un citoyen, c'est quelqu'un qui vote lui-même les lois auxquelles il consent à obéir. S'il ne vote pas lui-même ces lois, ça n'est pas un citoyen. C'est s'il désigne uniquement des maîtres, des maîtres qui vont tout décider à sa place pendant 5 ans, ça n'est pas un citoyen, c'est un électeur. Quand vous remettez tous les mots à l'endroit comme ça, quand vous dites le suffrage universel, ça devrait être le vote des lois, ça ne devrait pas être désigner des maîtres, en plus des maîtres choisis par les plus riches, etc. Quand vous remettez les mots à l'endroit, vous vous apercevez que ce qui vous semblait impossible, ce qui paraissait être des impasses, vous disiez, mais ça on n'y arrivera jamais, ça a toujours été comme ça, ça pourra pas être autrement. Et bien, quand vous remettez les mots à l'endroit, vous dites, mais c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. En prenant les problèmes par le bon bout, en disant, on va arrêter d'attendre de nos élus qu'ils écrivent une démocratie, ils ne l'écriront jamais, la solution politique ne viendra pas de ces gens-là qui sont nos maîtres et qui veulent juste le rester. La solution, elle viendra de nous. Il faut que nous écrivions nous-mêmes notre contrat social. Quand on prend les problèmes de cette façon, c'est incroyable comme ça donne. De l'espoir, les gens se transforment. Et c'est plus les mêmes. Ils regardaient la télé, ils s'amusaient, ils s'occupaient de bêtises. Et puis d'un seul coup, ils se mettent à faire de la politique parce qu'ils s'aperçoivent que c'est pas perdu d'avance, quoi. C'est pas, il y a une vraie opportunité. C'est pas du tout une fatalité. C'est pas parce que les gens ont été inertes, amorphes, et qu'ils n'ont pas réussi pour l'instant à être conscients de ce qu'il fallait, que ce sera toujours comme ça.
J'espère.
C'est un populaire qu'on n'a jamais eu là aujourd'hui.
J'espère. Vraiment, je suis de tout cœur derrière cette idée. Je me dis, tiens, j'espère qu'on va changer les choses. On va déjà se marquer la pause publicitaire comme prévu. Il y en a deux par heure. Elle arrive. Et on se retrouve dans un instant, Étienne. On va parler de politique et de votre engagement. Parce que je crois que vous vous engagez en politique, ou vous n'avez pas envie, ou d'ailleurs je me demanderai pourquoi. On parlera de tout cela dans un instant. Restez donc avec nous, c'est Ados, c'est toute la vérité.
Prémonition, monde parallèle, théorie du complot.
Tous les soirs sur Ados.
Bob vous dit toute la vérité.
Oui, je vous invite d'aller sur la page Facebook de l'émission, car il y a les 10 premières minutes d'une enquête menée ici même dans ce studio par le groupe Spirit Investigation, un groupe de traqueurs de fantômes. Il semblerait que le studio soit habité, on avait capté des choses, et je peux vous dire une chose, c'est que moi j'avais vécu cette enquête de l'intérieur, puisque je suis resté avec les traqueurs de fantômes toute la nuit, oui. Et il y a un dialogue qui s'est installé avec une entité. Je vous conseille vraiment d'aller voir tout cela sur la page Facebook.
Bob vous dit toute la vérité.
21h minuit sur Ados.
Étienne Chouard est avec nous, prof à Marseille, blogueur. Vous vous occupez du bien commun, du mieux que vous pouvez avec le temps dont vous disposez, Étienne. On va parler de politique. Vous vous êtes impliqué déjà en politique? Est-ce que vous voulez vous impliquer? Pourquoi, si vous vous impliquez pas, pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous avez un discours, en fait, de politique.
Bah, évidemment. Je sais pas pourquoi vous dites que je fais pas de politique, je fais que ça depuis 6 ans. Ce qu'il y a, c'est que je le fais pas du tout dans le cadre d'un parti, mais...
Mais ça a pas beaucoup de pouvoir. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je dis toujours que les gens qui parlent, mais qui s'impliquent pas, vous vous impliquez, vous parlez, mais vous ne vous impliquez pas dans la vie politique. Donc, pour faire bouger les choses, il faut s'impliquer.
Je suis super impliqué. Je fais une conférence par semaine depuis 2 ans. Je suis constamment dans tous les coins du pays, à Lille, à Toulouse, à Metz, en Suisse, en Belgique. Il y a un mois à La Réunion.
Mais pourquoi vos idées, vous ne demandez pas à ce que les gens les votent pour vous, ou en tout cas prennent part pour vous? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est bien sûr les conférences importantes, bien sûr c'est important de quelles que soient ses idées, les gens, je vous dis, je le dis toujours, mais là, à un moment donné, il y a une implication, il faut mettre le bulletin dans l'urne.
Mais non. Quand on met le bulletin dans... Enfin, excusez-moi. Donc, quand on met un bulletin dans une urne, on abandonne tout. Ça y est, on a arrêté. On a arrêté de faire de la politique. Quand on met un bulletin dans une urne, on... Je ne dis pas qu'il ne faut pas voter parce que c'est...
Mais les gens se sont battus pour avoir le droit de vote, Étienne, vous le savez.
Mais non.
Mais si, bien sûr que si. Je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi.
Les élus se sont battus pour que nous mettions des bulletins dans l'urne. Les élus se sont battus pour ça. Mais pour avoir la liberté. On ne s'est pas battu pour être mis en prison par des maîtres qui décident tout à notre place. Je suis désolé. Non, ça c'est un mythe. C'est un mythe absolu. Et quand bien même, c'est Bob, hein, votre prénom, c'est ça? Nous nous serions battus pour avoir cette première étape qui consiste à pouvoir désigner au moins nos maîtres. Ça ne voudrait pas dire que la bagarre est finie et qu'il faut que nous nous en contentions. C'est tout à fait insuffisant d'avoir comme seule liberté que celle de choisir nos maîtres. Enfin, bon,
qu'est-ce que vous attendez du fait de faire des conférences au coin de France? Qu'est-ce que pour vous, est-ce que vous pensez que ça va faire changer les choses?
Ben oui, moi il me semble, alors ça dépend pas de moi évidemment, donc je l'explique à chaque fois, c'est-à-dire que il me semble que les voleurs de pouvoir, depuis 200 ans, ont réussi grâce au faux suffrage universel, c'est-à-dire à la désignation de maîtres politiques qui décident tout à notre place, et qui donnent le pouvoir aux plus riches depuis 200 ans, et qui leur permet d'écrire un droit injuste qui s'appelle le capitalisme, mais qu'on ferait mieux d'appeler le crapulisme. Le capitalisme, en fait, il n'est possible que parce que les propriétaires ont pris le pouvoir, les plus grands, hein, les 1%, ont pris le pouvoir d'écrire le droit et d'écrire le droit injuste qui leur permet de régner sans partage.
Et ça, c'est valable dans tous les pays, Étienne ?
C'est valable dans tous les pays où il y a eu ce suffrage universel, pratiquement. Alors, quelques exceptions, mais qui ne démontrent pas la règle. Et alors, il me semble que ces gens-là ont concentré une série de pouvoirs absolument terrifiants. Ils ont l'argent, ils ont le politique, ils ont la culture, ils ont les informations, ils ont la création monétaire, ils ont donc le contrôle de la police et de l'armée puisqu'ils ont pris le contrôle du politique. Nous, devant, on est à poil, on n'a rien. Alors,
donc on est dans le complot, là, c'est la théorie du complot, c'est-à-dire qu'on est pieds maliés.
Enfin, puis quand bien même, je veux dire, moi j'ai pas peur de la théorie du complot, enfin je veux dire, il y a une espèce de mantra qui consiste à se débarrasser des accusations de manœuvres, d'intrigues et de complots en disant c'est la théorie du complot comme si on en voyait partout. Pour moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Des complots, il y en a partout depuis la nuit des temps, il y en a qui réussissent, la plupart ratent.
Pas tant que ça quand même, il y en a plein. On a beaucoup dit qu'il y avait de complots, il n'y en avait pas tant que ça.
Je vois pas pourquoi du jour au lendemain il y aurait plus de complots. Qu'on me démontre qu'un complot que je suis en train de dénoncer n'existe pas, mais il suffit pas de dire théorie du complot pour que je m'arrête de réfléchir. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que je sais plus ce que j'étais en train de raconter d'ailleurs sur cette parenthèse là. On était en train de dire.
Moi j'étais en train de vous demander pourquoi justement vous ne vous engagiez pas. On parlait du vote, du fait que vous fassiez des conférences, mais que et vous je vous ai demandé est-ce que vous pensez que ça va faire bouger les choses, voilà.
C'est ça. Et donc je disais face à les 1% qui sont ultra puissants, nous n'avons aucune chance si nous engageons le rapport de force. Par contre, je trouve que nous sommes, nous tous, divisés. Nous nous préoccupons chacun d'une spécialité. Il y en a qui se spécialisent sur la pollution et l'écologie. Il y en a qui se spécialisent sur la corruption des élus. Il y en a qui se spécialisent sur le sabordage monétaire, la création monétaire. Il y en a qui se spécialisent sur la prédation financière. Il y en a d'autres qui se spécialisent sur l'injustice dans l'entreprise. D'autres qui se spécialisent sur le racisme, etc. Tous les militants, tous les gens qui font un peu de politique se prennent à bras le corps un problème, une injustice sociale que je considère moi comme une conséquence et se heurte au mur et se heurte tous au même mur de notre impuissance politique et aucun ne se préoccupe de mettre d'abord fin à son impuissance politique et tous en fait gesticulent, excusez-moi j'ai des copains qui s'occupent de nucléaire depuis maintenant presque 40 ans on n'arrive pas à changer quoi que ce soit. Nous avons un mur d'impuissance. Je dis, nous devrions, au lieu de s'en prendre aux conséquences, nous devrions nous en prendre à la cause. La cause, nous avons une cause commune qui est cette constitution dans laquelle notre impuissance est programmée et dont tout le monde se fout. C'est extravagant. Si nous nous mettions, si nous incluions dans nos luttes, je ne dis pas de renoncer à nos luttes, mais si nous ajoutions à nos préoccupations le fait que si on se révolte, il faudra absolument faire attention à ce que ce ne soient pas des professionnels de la politique qui, enfin, écrivent la Constitution. Il faudra que, enfin, ce soient des gens normaux, des gens qui ne veulent pas le pouvoir, des gens qui renoncent au pouvoir, qui écrivent la Constitution. On frappe une pierre deux coups.
Mais moi, je trouve ça génial, Étienne. Honnêtement, je trouve ça génial.
Nombreux, et donc, il faut qu'on en parle avant. Ouais. Donc, ce que je fais, moi, je vais en parler aux gens et je dis, si vous n'en parlez pas, si vous, quand vous sortez de là, vous avez juste compris ce que je vous ai dit, et puis vous dites, bah, ouais, c'est intéressant, c'est original, gna gna gna. On n'avance pas, c'est mort, ça ne marchera pas. S'il n'y a que moi qui en parle, évidemment, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est.
Alors, justement, est-ce que les gens vous suivent? Est-ce que de plus en plus de gens sont derrière vous là-dessus?
Oui.
D'accord.
C'est ça que j'observe. Et parce que je les invite à faire ça, c'est-à-dire que ça ne marchera pas sans ça. Ouais. Il faut qu'on soit contagieux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se transforme, que les citoyens passifs, éclairés, conscientisés, les uns les autres, en se parlant, on se conscientise, et que nous devenions contagieux et que nous nous transformions en globules blancs, en soldats, capables d'enfin résister. Et si moi, ce que je fais, je vais en parler aux gens, je discute avec eux, je vérifie, je me trompe pas, je confronte mes idées avec les objections. Si chacun d'entre nous se met à faire ça, au lieu de rentrer chez lui à rien faire, il va se passer quelque chose. C'est déjà en train de se passer, c'est exponentiel. Alors au début, exponentiel, on ne se rend pas compte que ça va vite. Et c'est à la fin qu'on se rend compte que ça va très vite. Bon, ça dépend de nous. Mais je pense que tant qu'on ne sera pas nombreux à être unis sur une cause, plutôt que désunis sur des conséquences, tant qu'on n'y arrivera, on n'arrivera à rien.
Honnêtement, Étienne, tous les jours, je me pose la question, je me dis, mais où on va dans le mur, on regarde les enfants, on va dans le mur.
On est impuissant politiquement. Mais est-ce que vous vous préoccupez de d'où vient votre impuissance politique? Est-ce que vous, si vous cherchez, vous allez tomber sur la même chose que ce que je vous dis. Quand vous allez chercher, mais qu'est-ce qui fait que quand je me donne du mal, je vais sur les marchés, je tracte, je suis devenu un spécialiste de la création monétaire et j'ai compris ce qu'il faut faire en matière de création monétaire, mais je ne peux rien. À quel endroit est programmée cette impuissance? Est-ce que vous croyez que ça tombe du ciel? Pas du tout. C'est écrit dans un texte juridique, un texte auquel obéit l'armée, auquel obéit la police, auquel obéissent les juges, auquel obéissent tous les pouvoirs constitutionnels. Ça s'appelle la Constitution. Et vous savez, qui écrit la Constitution? C'est les banquiers qui écrivent la Constitution européenne. Ils sont moins cons que nous, les banquiers. C'est la sélection naturelle, hein, mort au con. Si on se réapproprie pas le processus constituant, ça finira en camp de travail. C'est pas une fatalité.
Justement, on va parler de la monnaie, hein. La théorie de la monnaie, quand même, c'est quelque chose qui. Est-ce que vous pensez déjà que les gens peuvent se passer de l'argent?
Je crois pas.
On a vu ici ou là des gens qui voulaient instaurer le troc, etc. Mais en fait, finalement, après, c'est savoir combien vaut.
C'est très pénalisant.
Oui, c'est ça.
Très pénalisant. Si vous voulez, le troc est possible dans un monde où nous avons tous un petit bout de terrain qui nous permet d'être autosuffisants alimentaires.
C'est ça.
Et qui nous permet de limiter l'échange au superflu.
D'ailleurs, ça se fait plus un peu à la campagne qu'à Paris. Hein, d'ailleurs, on le voit. Hein.
Oui, mais dans un monde où nous n'avons plus notre coin de terre, où nous dépendons les uns des autres pour survivre, pour manger. Nous avons absolument besoin de ces échanges, donc nous avons absolument besoin d'un médium, nous avons besoin de signes monétaires, quelle que soit leur forme. Il y a 36 façons de représenter les signes monétaires. Mais donc, nous en avons absolument besoin, mais nous n'avons pas forcément besoin, nous n'avons surtout pas besoin du type de monnaie que nous avons aujourd'hui, qui est aberrant. Nous avons une monnaie aberrante, une monnaie qui est privée. La monnaie aujourd'hui, elle est créée par les banques privées. C'est extravagant. Nous avons une monnaie privée, nous avons une monnaie dette, c'est-à-dire une monnaie que nous ne pouvons créer qu'en empruntant. C'est-à-dire que nous, pour avoir de la monnaie, il faut que nous nous endettions. Si nous ne nous endettons pas, nous n'avons pas de monnaie. C'est extravagant. Je veux dire, l'État pourrait très bien créer la monnaie permanente et gratuite, parce qu'en plus, j'ai oublié de vous dire que notre monnaie actuelle, elle est payante et elle est rare. Elle a tous les défauts. C'est absurde. Elle nous incite, écoutez bien, le type de monnaie que nous avons nous incite à l'accaparer, à la garder pour nous mettre à l'abri du besoin. Elle déclenche une peur de manquer qui déclenche à son tour de la cruauté, de la cupidité. C'est absurde. On pourrait très bien imaginer une monnaie alternative qui soit permanente, gratuite, abondante et qui nous dissuade de l'accumuler, qui circule. On a connu des périodes comme ça.
Mais comment mettre tout cela en place, Étienne ? C'est juste pharaonique, quoi.
Mais pas du tout. C'est complètement lié à ce qu'on disait juste avant. Si on n'écrit pas nous-mêmes notre constitution, on ne reprendra jamais le contrôle de la monnaie. Je vous rappelle que ceux qui écrivent la constitution européenne, sont des banques.
Ouais.
Ce sont les banques. C'est les mêmes. Celui qui maîtrise la monnaie, il maîtrise le pouvoir politique.
Ça c'est sûr.
Mais c'est complètement lié. Et tant qu'on ne reprendra pas le pouvoir au plus haut niveau du droit, on se sortira pas du piège. Je veux dire, écrire nous-mêmes la constitution et reprendre le contrôle de la monnaie, reprendre le contrôle public de la monnaie et faire de la monnaie un outil de prospérité au lieu d'en faire un outil d'austérité, tant qu'on fera pas ça, tant qu'on reprendra pas les problèmes par le bon bout, c'est-à-dire par le processus constituant, mais en le laissant pas écrire par les hommes politiques de métier, ça c'est absolument central. J'ai complètement raté mon truc si vous n'avez pas compris que le plus important, c'est qu'il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Si on élit l'Assemblée constituante parmi les professionnels de la politique, c'est mort. C'est à nouveau les hommes au pouvoir qui vont écrire les règles du pouvoir, c'est à nouveau les riches qui vont nous imposer leurs candidats pour écrire la constitution et on retombe dans le même piège qu'avant.
Étienne,
tout se joue
à la
désignation de l'Assemblée constituante. Il faut qu'elle soit tirée au sort.
Alors, le message est passé, je crois qu'on a bien compris, et moi aussi. Juste, est-ce que vous avez un écho auprès de certains politiques ?
Non, ils me connaissent, mais...
Tout n'est pas dénué de non-sens, quand même, dans ce que vous dites, quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout n'est pas dénué de non-sens dans ce que vous dites. Il y a plein de choses qui sont tellement presque évidentes dans vos propos. Des fois, on se dit, pourquoi pas, quoi ? Et pourquoi pas aller chercher des idées ?
Je vous rappelle que tous ces hommes politiques, parmi lesquels il y a plein de gens bien, je ne dis pas du tout que c'est des politiques, mais parmi tous ces hommes politiques sont, dans la matière dont je vous parle, le processus constituant, l'acte d'écriture du texte supérieur, ils sont tous, par construction, en conflit d'intérêts. Donc ils ne peuvent pas avoir une opinion désintéressée. Ils ont un intérêt personnel contraire au nôtre. Dans cette occurrence-là, pas en toute matière, mais dans cette occurrence-là, ils ont un intérêt à instituer leur puissance et à instituer l'impuissance populaire. Il faut comprendre ça. J'ai regardé les débats parlementaires pendant 200 ans, mais c'est constamment à l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'il y en a un qui dit « mais il faudrait donner du pouvoir au peuple », t'as tous les députés qui s'y opposent, tous, tout le temps, quel que soit le bord. Il y a peut-être les communistes un peu moins, mais même pas.
C'était presque normal.
Non, mais je leur en veux pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'attends pas d'eux la solution. La solution ne viendra pas de...
Non, mais elle viendra du peuple, la solution.
Absolument.
Si, bien sûr, le peuple comprend que c'est lui qui doit prendre le pouvoir.
Chavez a fait écrire la Constitution par son peuple.
Chavez,
au Venezuela. Et dans les pueblos, dans les bidonvilles, les paysans, les pauvres ont très largement participé à l'écriture de la Constitution. Et quand ils apprennent à lire, le premier texte qu'ils apprennent à lire, c'est un tout petit texte, la Constitution. Ils apprennent avec la Constitution. Et ils la portent sur eux, c'est un tout petit truc qui ne prend pas de place dans la poche. Ils ont compris, j'espère que si Chavez meurt, j'espère que cette graine essentielle et qui est particulièrement développée au Venezuela.
Mais de toute façon, il est aimé, parce que le peuple souffre depuis que lui est malade. Ça, c'est sûr que il a été très très et un phare pour eux. Bon, bah écoutez, on va être obligé malheureusement, Étienne, de se quitter parce qu'on arrive au terme de cette discussion. On a été ravis de vous entendre ici sur Ado. Alors, beaucoup de gens me disaient, c'est incroyable, Étienne Chouard sur Ado, dont Bob vous dit toute la vérité. Ben voilà, c'est fait, hein, comme quoi, voilà. Il y a toujours un dépucelage. C'était ce soir, Étienne. Merci en tout cas infiniment d'avoir été avec nous. J'espère que vous repasserez par nos studios, un de ces quatre. Et puis j'espère que bah, les gens, comme je le dis toujours, on expose, dispose, et j'espère que vous avez bien disposé. En tout cas, à très bientôt, Étienne Chouard.
J'ai retrouvé le oui, lien vers l'Islande. Sur Google, il faut chercher MYTHE, M-Y-T-H-E, Islande anticapitaliste. Avec ces trois mots-là, vous tombez sur le MYTHE Islande anticapitaliste.
Vous savez quoi, parce que c'est compliqué à noter, et Mathieu va vous reprendre en ligne, oui. Comme ça on va tout noter, on va le mettre sur la page Facebook, d'accord?
Et puis pour retrouver mon site, il suffit de taper Chouard sur Google.
Ah bah, de toute façon, vous aurez votre lien sera mis sur le site aussi. À très bientôt, Étienne. Au revoir.
Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur radofm.fr.
Et oui, et alors ça, vous allez pouvoir la réécouter, l'émission, la partager, la liker, en fait, ce que vous voulez avec. Et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est ça les podcasts, c'est ça l'avantage. Alors dans un instant, dans un registre totalement différent, parce que vous le savez, sur Ado, on fait la théorie du complot, on fait la révélation des pyramides, on fait la manip gouvernementale, tout, les maisons hantées, les ovnis, quoi qu'il en soit, dans un registre différent dans un instant, c'est Martin qu'on va accueillir. Il va nous parler de Paris, ah. et des fantômes de Paris, de la malédiction de Paris. Restez donc avec nous, ça va être passionnant jusqu'à minuit, c'est Ado, à Paris 97.8 et à Toulouse 93.
Ouais, là on va écouter Maria Carré avec It's Like That, on revient dans 3 minutes sur Ado pour encore une heure de paranormal dans Bob vous dit toute la vérité.
Tous les soirs, 21h minuit sur Ado, Bob vous dit toute la vérité.